Radio Capi. À la présentation du journal, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, agression de la RDC par le Rwanda, le gouvernement congolais demande officiellement aux membres du Conseil de sécurité de publier les derniers rapports des experts de l'ONU. Cette position de la RDC a été exprimée hier mardi par le président de la République devant la tribune des Nations Unies à la 77e Assemblée générale de cette organisation mondiale. Omaï Ndombé, 10 assaillants présumés auteurs de violences enregistrées dans les territoires de Kwamout, ont été acheminés hier mardi à Kinshasa. Les sources militaires à Bandundu renseignent que ces suspects ont été arrêtés en brousse lors des opérations menées par les éléments des FARDC. Nous allons vous proposer de suivre à la fin de cette édition l'intégralité du discours du président de la République en lieu et place de l'invité du journal. Félix Antoine Tshisekedi évoque également la question de la réévaluation du plan de retrait progressif de la MONUSCO. Mesdames, Messieurs, bonjour. Agression de la RDC par le Rwanda. Le gouvernement congolais demande officiellement aux membres du Conseil de sécurité de publier les derniers rapports des experts de l'ONU, mais aussi de le faire examiner et d'en tirer toutes les conséquences. Cette position de la RDC a été exprimée hier mardi par le président de la République devant la tribune des Nations Unies à la 77e Assemblée générale de cette organisation mondiale. Félix Antoine Tshisekedi a souligné que cette démarche va lever toutes les suspicions sur l'impartialité de l'ONU et la complicité de certains de ses membres. Il a aussi évoquer la question de la réévaluation du plan de retrait progressif de la MONUSCO. On écoute le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ses propos ont été recueillis par Alain Irung, l'envoyé spécial des radios Okapi à New York.
Le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation.
Vous suivrez l'intégralité du discours du chef de l'État dans la seconde partie de ce journal, exceptionnellement lieu et place de l'invité du journal. Vous avez aussi la possibilité de l'écouter sur notre site web www.radiocapi.net. Sous un autre chapitre, la jeunesse doit développer la culture de la paix et du dialogue. C'est le message des jeunes patriotes consolidateurs de la paix à la jeunesse de la ville et territoire de Beni au Nord Kivu à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. Pour les coordonnateurs de cette association des jeunes, cette culture doit se caractériser aussi par les actions non violentes en se liguant derrière les autorités pour des solutions durables de la paix. Rema Krisnovic Junior, coordinateur de JPCP, s'est confié à Marc Marofimbou.
À l'occasion de la Journée internationale de la paix, JPCP lance un appel à toute la communauté de Beniville et territoire au développement de la culture de la paix comme un vecteur d'une paix durable. C'est par manque de paix intérieure, bien évidemment, que certains recourent aux rébellions pour pouvoir résoudre certains problèmes. C'est ainsi qu'il existe des conflits intrapersonnels qui constituent un danger pour la communauté. La culture de la paix, c'est aussi apprendre à résoudre pacifiquement les conflits qui peuvent éclater entre le peuple ou entre les nations, notamment par la parole et le dialogue, et non par les armes et la violence. Tous nous devons œuvrer pour la paix. Cette paix doit commencer dans nos ménages pour la consolider effectivement. La paix est à une denrée rare, mais tant recherchée dans notre région. Nous avons donc l'obligation de concourir à sa recherche à travers notre comportement. C'est facile de trouver la paix dans notre région si nous brisons toute chaîne de trahison en privilégiant l'amour de la patrie.
Je le disais au sommaire, 10 assaillants présumés auteurs de violences enregistrés dans le territoire de Kwamout, Omaï Ndombé, dont deux femmes ont été acheminées hier mardi à Kinshasa à bord des deux hélicoptères militaires partis de Bandundouville pour la capitale. Les sources militaires à Bandundou renseignent que ces suspects ont été arrêtés en brousse lors des opérations menées par des éléments de FARDC. Plus d'explications avec Irène Boma.
Selon le commandant de la 11e région militaire infanterie de Bandundu, ces 10 personnes acheminées à Kinshasa mardi à bord de ces deux hélicoptères militaires qui ont atterri à l'aéroport national de Bandundu sont des présumés assaillants auteurs des hostilités perpétrées au territoire de Kwamout, en province de Maï Ndombé, dans le cadre du conflit Tekeyaka. Parmi eux figurent deux femmes dont une est partie avec une fillette de 3 ans, le colonel Alain Bayou.
Ce sont les détenus que nous avions arrêtés en brousse là-bas, à 15 km de Kabankou, qui étaient en train d'incendier ensemble avec nos frères qui sont en train de se battre de l'autre côté. Et à Bandundouville, nous avions arrêté deux qui faisaient tourner les intox.
S'agissant des différents audios et messages qui circulent dans les réseaux sociaux sur la présence des rebelles étrangers dans la ville de Bandundu, sémant la peur et la psychose chez la population, le colonel Alain Bayo rejette cela et parle de fausses informations.
Tout ce qui se parle partout ici en ville, c'est faux, c'est du mensonge. Il n'y a rien, je demande à la population d'être calme, nous sommes en train de travailler jour et nuit.
Il faut signaler que l'aéroport de Bandundu a été envahi et entouré dans la mi-journée de ce mardi par une foule nombreuse venue pour voir ces deux hélicoptères de chasse et en même temps pour chercher à connaître la raison de leur présence dans la ville. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Kasaï central, le commissaire provincial de la police nationale congolaise appelle la population à soutenir Oussala Mawit, cette opération de police qu'il a lancée lundi dernier à Kananga. Selon le colonel Aimé Claude Ouassongolois, le souci est de lutter contre la criminalité transfrontalière et surtout le vol d'enfants dans la région. Les unités sont mobilisées pour démanteler les réseaux des criminels habitués à ces pratiques. Le colonel Aimé Claude Ouassongolois est au micro de François Kadima.
Et au Kasaï central, vous le savez, c'est un fléau, trafic d'enfants, qu'on appelle couramment vol d'enfants, qu'en droit on appelle supposition d'enfants. Donc nous focalisons particulièrement notre attention sur ce fléau-là, et nos unités sont vraiment avisées, ils ont reçu des consignes, ils ont reçu toute une méthodologie, tout un modus operandi pour pouvoir traquer ces gens-là, ces criminels-là. La population, comme d'habitude, doit accompagner sa police. Vous savez, ces malfaiteurs, ces criminels, ils vivent avec nous. La population peut justement collaborer en nous donnant quelques indications. Et les personnes suspectes sont avec nous. Donc la population doit jouer son rôle, celui de collaborer avec la police, celui de donner des pistes. Et à travers ces pistes-là, nous, en tant que professionnels, nous allons démanteler les réseaux ou ces criminels.
L'invité.
Et comme annoncé, je vous invite à suivre le discours du chef de l'État prononcé hier mardi devant la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e Assemblée Générale. On écoute le président Félix Antoine Tshisekedi. Ses propos ont été recueillis par Alain Irung, l'envoyé spécial des Radio Okapi à New York.
Monsieur le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de délégation, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo, sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale actuellement. Monsieur le Président, je voudrais néanmoins, avant toute chose, vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de cette session et vous garantis tout le soutien de mon pays. Monsieur le Président, les défis majeurs auxquels l'humanité fait face actuellement sont les suivants. La sécurité et la paix pour tous, la maîtrise des changements climatiques, la relance de l'économie mondiale après la COVID-19, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif. Ces principaux défis sont complexes et intimement enchevêtrés. Conscient de cette réalité, je salue le choix judicieux et la pertinence du thème central de ces assises, à savoir un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. À l'évidence, le relèvement de ces défis exige plus de concertation, plus de coopération et plus de solidarité entre les États et les nations. Le maintien de la paix et la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ni l'indifférence, ni l'immobilisme, ni l'attentisme de sa part ne sont par conséquent admissibles face à toute menace contre la paix et la sécurité internationale. À ce jour, la question de la sécurité et de la paix internationale se cristallise autour de la lutte contre le terrorisme ainsi que l'extinction des foyers de tension en Europe et en Afrique. En effet, le terrorisme n'a épargné aucun continent. Après l'Asie, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, il se métastase en Afrique où il a allumé le feu à plusieurs endroits et notre continent en paye un lourd tribut. Au Sahel, à l'est, à l'ouest, au centre et au sud de ce continent, les terroristes tuent par des expéditions barbares des populations innocentes et déstabilisent des États au nom de l'intégrisme religieux. Certes, des progrès remarquables ont été accomplis au Moyen-Orient dans la lutte contre ce fléau qui a battu de l'aile. Cependant, ce fléau est loin de s'essouffler et encore moins d'être éradiqué de notre planète. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, une des victimes africaines de ce terrorisme, est membre de la coalition globale contre l'État islamique, interpelle les Nations Unies et les exhorte à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des recommandations de cette coalition et de celle du processus d'Aqaba. Les déclarations d'intention et les proclamations de foi sans action collective vigoureuse sur le terrain ne suffiront jamais pour éradiquer le terrorisme. Monsieur le Président, au cœur de l'Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est une plaie béante dont le saignement atteint même l'Afrique lointaine et perturbe le commerce international à cause des dégâts collatéraux importants, notamment en matière d'approvisionnement en produits céréaliers et énergétiques d'origine ukrainienne et russe, nécessaires à l'alimentation des populations ainsi qu'au fonctionnement des économies des pays importateurs. Il est impératif que les Nations Unies interviennent avec diligence et plus de fermeté pour éteindre ce brasier et ce, dans le respect absolu des règles du droit international. La République démocratique du Congo souscrit à la position de l'Union africaine et appelle toutes les parties au conflit à suivre la voie du dialogue et du droit préconisée par l'Afrique qui a par ailleurs l'expérience de gestion des crises sécuritaires provoquées par des groupes armés dans certains de ces États. À ce sujet, les Nations Unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication des Nations Unies, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines, de l'Union européenne et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo pour juguler cette crise récurrente. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front de la défense des idéaux de paix et de justice. Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, que des organisations non gouvernementales, humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute instance internationale de gestion des affaires du monde la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect, bien sûr, du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait avéré sur le terrain. En effet, les FDLR ont été décapités et réduits à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on ? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR. À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci: 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23 dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétariat général de la CAE, d'une part, et d'autre part, par les FRDC et le commandement de cette force régionale. 4. Encourager le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président de la République d'Angola, João Lourenço, médiateur de la CAE et de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, à poursuivre leurs bons offices. 5. Lever tout obstacle à la restructuration par la République démocratique du Congo de ses forces armées et de défense, à la montée en puissance de celles-ci, pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition d'équipements militaires, quelle qu'en soit la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la République démocratique du Congo pour stabiliser la région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique.
Et vous avez aussi la possibilité de suivre l'intégralité de ces discours du chef de l'État sur notre site web www.radiocapi.net. Fin de ce journal, vous avez la même possibilité de le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Capi.